Quelle data pour 2012, quelles données sont souhaitables, nécessaires, utiles, disponibles ou indispensables pour accompagner et mieux comprendre les processus électoraux en 2012 en France et pourquoi pas dans le monde où 2012 est une année résolument électorale. Je rappelle que la Russie, le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, le Ghana, le Kenya, Madagascar, l'Angola, le Mexique et les États-Unis renouvellent leur président cette année. Il y a des législatives dans de très nombreux pays, y compris la France. On va profiter de la présence autour de nous de plusieurs spécialistes pour dresser un état des lieux des données disponibles en France pour une bonne couverture data des élections, dresser également un inventaire des attentes pour les journalistes et les organisations citoyennes, attentes en termes de législation, de mise à disposition. On va aussi s'interroger plus généralement sur l'apport du data journalisme à la vie démocratique. Est-ce par exemple une manière de contrebalancer la communication politique ou les sondages d'opinion ? Dans l'esprit de Hack de Presse, on va réfléchir aussi à des pistes de réflexion pour une couverture innovante des échéances électorales. Et si tout va bien, nous lancerons dans 45 minutes, une heure, peut-être une heure et quart, candidata.fr, je ne vous en dis pas plus. Bonjour Nicolas Kaiser-Brill.
Bonjour.
Tu es cofondateur et directeur général de Journalisme Plus. Tu peux nous dire un mot déjà de ce que c'est ?
Donc Journalisme Plus, c'est une start-up qu'on a créée avec Pierre Romera et Martin Untersinger. Le but est de faire du data journalisme que l'on transforme en application mobile ensuite qu'on vend à l'utilisateur final directement.
Tu es connu pour avoir travaillé longtemps à OVNI, que tu as quitté récemment. Moi, je me souviens de toi, on avait parlé il y a 2 ans d'une initiative que vous aviez lancée à OVNI qui était Ensemble, géolocalisons les bureaux de vote. Tu peux revenir sur ça et ça peut servir d'introduction au degré ou au niveau où est la France par rapport aux données.
Donc, en 2009, pour les élections régionales de 2010, on avait fait avec Regard Citoyen une application qui permettait de trouver son bureau de vote sur une carte. On pensait que ça serait extrêmement simple et en fait on s'est rendu compte que ces données-là, à savoir quelles étaient les adresses des bureaux de vote tout simplement, n'existaient pas. Donc le projet s'est transformé d'une visualisation à une collecte de données qu'on a fait avec les utilisateurs.
Vous avez demandé aux gens de vous envoyer les adresses tout simplement, les géolocalisations de leur bureau de vote.
On a dû demander à toutes les préfectures où étaient les bureaux de vote et ensuite la communauté est passée derrière pour vérifier les infos.
Comment ça marché, ça ?
Ça a plutôt pas mal marché. À l'époque, à la fin, on avait 90-95% des bureaux de vote qui étaient géolocalisés. Le problème, c'est que les informations n'ont pas été mises à jour parce qu'on n'avait pas les moyens de simplement de faire vivre cette base de données-là. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a toujours pas de base de données nationale des bureaux de vote.
On va peut-être répondre à cette question si c'en est une. Plus généralement, comment tu vois la place, l'état des lieux des données disponibles d'un point de vue politique en France aujourd'hui ?
Depuis 2009, la principale différence, c'est qu'aujourd'hui, on a data.gouv.fr et qui a notamment mis en ligne toutes les données des résultats électoraux depuis 2002, il me semble, commune par commune. Et nous, avec Journalisme Plus, on a récupéré ces données-là pour en faire une application en se disant, plutôt que de donner les résultats de telle élection à tel endroit, qui est finalement pas très intéressant, on essaie de trouver la couleur politique de chaque territoire en agrégeant les résultats de différentes élections. Ensuite, en croisant ces données-là avec les données de l'INSEE, par exemple, on est capable de dire voilà, une commune avec tant d'ouvriers, elle va voter plutôt extrême droite, extrême gauche, gauche. Une commune avec tant d'ouvriers qui ne votent pas à gauche, là, c'est intéressant et on va pointer du doigt cette commune-là. Donc, on est capable d'avoir plusieurs applications à partir d'un jeu de données relativement simple.
Donc, on comprend qu'il y a un mieux par rapport notamment à 2009. Est-ce qu'il y a encore des attentes importantes, des défauts importants ou des attentes importantes pour quelqu'un comme toi ?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de mieux dans le sens où les sets de données principaux sont maintenant faciles à trouver. Il y a toujours énormément de problèmes dans le sens où si demain on voulait refaire cette expérience avec les bureaux de vote et qu'on appelait les préfectures pour avoir les documents, on aurait la même réponse qu'en 2009, c'est-à-dire vous voulez de l'information publique, vous voulez des données, non, c'est pas ce que c'est. Donc vous allez attendre, vous allez faire des démarches et ça sera toujours pareil. Ça n'a pas changé.
Un mot sur les démarches. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui du point de vue de la législation, ce à quoi on a droit, ce qu'on peut faire pour obtenir des données ? Tu souris, je précise, pour ceux qui ne voient pas.
Donc la loi du 17 juillet 1978 est toujours en vigueur et qui permet à chaque citoyen de demander tout document administratif, donc y compris des données sur les résultats électoraux, sur les listes de bureaux de vote, etc. Et l'administration est tenue de répondre aux demandes des citoyens. Maintenant, dans les faits, sur les 6 derniers mois, j'ai dû faire une dizaine de demandes. L'administration n'a jamais répondu. Donc ensuite, le citoyen peut aller à la commission d'accès aux documents administratifs qui va rendre un avis en disant oui, vous avez le droit d'avoir accès à ces documents, non, vous n'avez pas le droit.
Le fameux CADA, un mot qui revient, donc on le saura.
Et donc, encore une fois, sur ces expériences que j'ai faites dans ces derniers mois, la CADA a rendu plusieurs avis en ma faveur. Donc je retourne voir l'administration en disant, regardez, la CADA m'a donné raison. Et l'administration continue à ne rien faire. Donc ensuite, il faudra aller au tribunal administratif. Donc c'est un processus extrêmement long.
Donc la législation est désuète, on le comprend. Est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration ?
Et j'espère que Sévranodet va expliquer tout ça.
On va en parler, on continue le tour de table. Bonjour Alexandre Leschnet.
Bonjour.
Tu es journaliste au Monde.fr et tu es également co-auteur de matièresprimaires.fr, qui est un site lié aux élections, c'est ça ?
Oui, c'est un observatoire visuel de la campagne.
Toi, tu as rejoint, donc Alexandre, tu es tout jeune, tu as rejoint le service politique du Monde pour apporter une vision ou un savoir-faire dans le domaine des données. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ?
On a fait différentes choses. Récemment, j'ai fait une analyse géographique des élections à la primaire. Je travaille en ce moment sur l'ISF. On voudrait aussi travailler sur la carte scolaire. On a travaillé sur les budgets des régions aussi, qui sont... Voilà.
Donc, pour recadrer, toi, tu apportes un savoir-faire de données dans un ancien journal qui n'avait pas jusqu'à maintenant de journalistes spécialisés dans les données comme toi. Comment ça se passe au quotidien, sans jeu de mots, comment ça se passe, quoi ?
Alors, il y avait des journalistes qui manipulaient des données, chacun dans leur coin, beaucoup avec leur papier, leur crayon.
Notamment pour les élections, au lendemain des élections, Le Monde publie des cartes avec les résultats dans tout le pays, avec plein de données qui sont manipulées par les journalistes, notamment.
Voilà, après, moi, ce que j'amène, c'est peut-être un nouveau traitement dans format de rendu sur le web pour l'instant. Donc amener un peu plus de graphiques, de visualisations en cartes. J'amène aussi une manipulation des données qui augmente réduit le temps de travail. Pardon.
Ton regard à toi, Alexandre, sur la situation en France d'accès aux données, de mise à disposition ou de disponibilité des données ?
J'ai pas une vue générale de toutes les données, mais au fur et à mesure de mes travaux, je me rends compte de certains manques. Par exemple, sur la carte scolaire, j'essayais de voir... avant tout, par exemple, le nombre moyen d'enfants par classe, et ce nombre moyen, on l'a qu'au niveau national, et il n'y a absolument aucune donnée qui est par commune, par exemple. Et donc, les ministères, c'est un outil de communication important pour eux, les chiffres, et ils se rendent bien compte que si la moyenne elle est à 2,7 élèves par classe, c'est un bon chiffre, mais si on veut avoir des détails au niveau... rural ou urbain, faire des comparaisons, des choses comme ça, ils ne donnent pas du tout accès à ce genre d'informations.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à ce genre d'informations ?
Alors, il faudrait les demander, trouver un bon interlocuteur, il faudrait qu'ils veuillent les donner. On pourrait imaginer de demander à tous les lecteurs de donner le nombre d'enfants dans toute leur classe des écoles, dans toute leur classe d'école. Voilà. En attendant, on trouve d'autres moyens.
Alors, je vais continuer avec les journalistes dans un premier temps. Bonjour Sylvain Lapoix.
Bonjour Zidane Malouf.
Toi, tu travailles pour le pôle data d'OVNI, d'OVNI.fr.
Alors en fait, c'est amusant parce que, au départ non, mais d'accord, maintenant de plus en plus.
Alors explique-nous.
Concrètement, moi, je suis arrivé chez OVNI en septembre 2010, je ne sais plus. C'était il y a si longtemps maintenant. Ma vie a changé. Pour élargir un petit peu le cadre de traitement d'OVNI, ce dont il parlait, pour parler de politique et pour un peu élargir et approfondir la notion de pouvoir qui est au cœur du triptyque OVNI, qui est pouvoir, société, culture numérique. Je suis arrivé avec une ambition qui était celle de sortir un petit peu du traitement politico-politique, qui en France, grosso modo, consiste à demander à des élus de gauche ce qu'ils pensent de déclarations du président de la République,
afin ou de inversement, quand
ou inversement, quand on évidemment, quand on laisse la parole aux élus de gauche, et afin de rentrer un peu plus dans le dur et dans le concret. En se penchant, par exemple, sur des sujets aussi anodins et secondaires que l'énergie, l'éducation nationale et ce genre de détails de la vie quotidienne des Français. À cette occasion, on a eu quelques beaux succès, notamment sur l'énergie, notamment sur une énergie très polémique dont vous avez forcément entendu parler ces derniers temps, le nucléaire.
Pardon.
Ainsi qu'effectivement les gaz de schiste qui continuent de faire partie des articles les plus lus. Et en fait, à cette occasion-là, on a de plus en plus, et je me suis de plus en plus impliqué, sous l'impulsion aussi de l'esprit qui anime OVNI, dans des projets visant à tirer le maximum de parti de ce que le web pouvait être en termes de journalisme. Et en l'occurrence, pour précéder un petit peu ta demande, je pense que dans le data journalisme et dans la présidentielle qui est là en cours, enfin la campagne a commencé, le vrai enjeu, ce n'est pas tant d'avoir des journalistes qui regardent des données, des développeurs qui regardent des journalistes, mais que les journalistes et les développeurs regardent dans la même direction, ensemble, et surtout mettent un peu d'intelligence là-dedans, et qu'on ne soit pas non plus dans l'obsession de la donnée, de la même manière que certains journalistes politiques sont dans l'obsession de la politique.
En fait, toi, tu n'aimes manifestement pas les étiquettes, et puis tu étais peut-être même rétif à l'idée de travailler dans les données. Et puis petit à petit, en fait, on sent que
j'étais un peu rétif. Ouais, franchement.
Qu'est-ce que maintenant, avec les enseignements et
je suis un homme heureux.
Qu'est-ce que ça t'a appris de la relation que ça peut avoir du journalisme politique, qui est ta spécialité, et des données, du travail de données.
Déjà concrètement, moi, il y a un constat que je fais par rapport au journalisme politique en France, et que j'ai pu faire également dans ma précédente expérience chez Marianne, où je suis resté pendant 3 ans et où j'ai notamment couvert la campagne présidentielle sur Internet. C'est qu'aujourd'hui, le journalisme politique à la française, c'est un journalisme dépolitique, pour reprendre le titre de la rubrique dans Libération par exemple, c'est-à-dire que c'est un journalisme où on parle des hommes et des femmes politiques. Or, très modestement, très humblement, la pipolisation, c'est aussi une conséquence de ça, que les journalistes politiques parlent aux journalistes politiques. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, et notamment à l'aune de la crise financière, qu'aujourd'hui les journalistes politiques les plus pointus et qui parlaient au final le plus de sujets qui intéressaient les Français, qui les concernaient au premier chef, c'était les journalistes échos. C'était les journalistes échos qui parlaient de la facture de flotte, c'était les journalistes échos qui parlaient des dangers de telle industrie, c'était les journalistes échos qui parlaient de l'évolution de la subvention de telle ou telle administration, de l'éducation nationale, de les hôpitaux, etc. Et c'était surtout les journalistes échos qui donnaient les éclairages chiffrés, argumentés et de politique au sens, entre guillemets, comme il y a la deep ecology de deep politique, c'est-à-dire dans les décisions, dans les éléments également idéologiques, mais aussi dans la chaîne de pouvoir qui menait à ce qui fait le quotidien des Français dans la politique, la gestion de la cité. Et par rapport à ça, j'ai découvert que, de ce point de vue, les bases de données qui étaient disponibles étaient une richesse, que c'était une richesse qu'il fallait faire fructifier, non pas de façon artificielle et dans des placements douteux avec des produits journalistiquement pauvres, mais au contraire avec des choses explicatives, pédagogiques, donner de l'intelligence à ces données et un petit peu aussi utiliser ces données contre cet autre journalisme politique, entre guillemets, pour battre en brèche les personnes qui relaient sans vérifier des chiffres qui sont totalement sans cohérence.
Alors j'ai regardé un petit peu le type de couverture que tu avais pu faire toi avec les données. Tu as fait notamment une analyse des mots de Marine contre l'image de Jean-Marie. Et là, les données, ce sont des mots parce qu'on imagine toujours des chiffres dans les données. Mais les données, ça peut être une analyse de texte, de récurrence, ouais, etc.
Sauf que ce sont des mots, ce sont des chiffres. Mais qu'avant ça, il y a une discussion entre moi et des journalistes spécialisés dans les données. En l'occurrence, l'équipe formée par Nicolas Patte, Marie Coussin, Julien Goetz et deux personnes chez OVNI. Et où on a parlé, Claire Berthélémy également, et où on s'est dit, qu'est-ce qui peut ressortir d'un discours de Marine Le Pen face à Jean-Marie? Qu'est-ce qui peut être intéressant d'analyser chez Marine Le Pen? Que des chiffres pourraient révéler, et non pas l'inverse. On n'a pas pris des données pour se dire qu'est-ce que les données peuvent dire. On a regardé les candidats en se demandant qu'est-ce qui pourrait faire l'objet, qu'est-ce qui pourrait être révélé par les données. Et en l'occurrence, on s'est dit effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans ce discours qui a changé? Est-ce que Jean-Marie Le Pen est rentré en campagne comme Marine Le Pen rentre en campagne? Eh bien, pas du tout, en l'occurrence. Ça se voit par les pronoms qui sont utilisés, par leur occurrence, ça se voit par les champs lexicaux, ça se voit par les références historiques. Mais ce qui est intéressant avec les données qu'on a relevées, c'est que moi, j'étais arrivé avec ma petite idée de journaliste politique, et le fait que j'ai suivi Front National en 2007. Et j'avais une idée préconçue que les données m'ont un peu contredite et que j'en ai tenu compte pour réintégrer ça. Et au final, ça a été réinjecter de l'intelligence dans les données. Des chiffres tout seuls sur une table, ça sert à rien et tout le monde s'en fout. Des chiffres avec une analyse, une contextualisation et un regard, ça devient du journalisme.
Alors les données, c'est, on l'a compris, une histoire de journaliste. C'est aussi une histoire d'organisation, d'association, de collectif. Bonjour Benjamin Octabanou.
De citoyen.
Du citoyen, c'est une histoire de citoyen. Et toi, tu représentes justement Regard Citoyen, qui est un collectif. Tu peux nous expliquer en quelques mots ce que vous faites à Regard Citoyen ?
Alors Regard Citoyen, c'est une association qui s'est créée en 2009, qui a pour but d'utiliser un maximum d'informations publiques en vue d'essayer d'améliorer la compréhension de nos institutions et peut-être d'améliorer le fonctionnement démocratique. C'est peut-être un peu ambitieux, mais donc l'idée c'est qu'on a constitué des premiers sites qui s'appellent nosdéputés.fr et nossénateurs.fr, qui sont nos initiatives les plus connues, sur lesquelles en fait on récupère l'intégralité des informations sur l'activité parlementaire des députés et des sénateurs, qui sont publiés tous les jours sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et on les représente, on les republie dans une base de données et sous de formes de visualisation qui permettent un accès simplifié du citoyen à ces informations, ainsi qu'un accès sur le fond pour pouvoir le commenter et éventuellement rentrer en dialogue avec les élus. Donc c'est l'idée que l'open data permet peut-être une forme d'open government, de dialogue avec les institutions et une meilleure transparence du fonctionnement de nos institutions.
Quel est ton regard ? Donc toi, on comprend bien que c'est vraiment ta spécialité, les données publiques, l'accès aux données publiques, donner accès aux données publiques également au plus grand nombre. Quel est ton regard sur la situation de la France à la veille de deux rendez-vous électoraux ?
Alors concernant les données et l'open data en général, la France a fait de gros efforts au cours de l'année passée. Regard Citoyen s'est félicité à de nombreuses reprises du travail mené par l'équipe d'État Lab. On a quelques regrets sur certains aspects, notamment les formats. Alors l'open data, c'est des principes qui sont établis depuis plusieurs années à l'étranger, notamment par l'Open Knowledge Foundation et la Solenite Foundation en Angleterre et aux États-Unis. Et notamment, il y a quelques principes très clairs à respecter qui consistent avant tout à ce que les données publiques, pour qu'elles puissent servir à un maximum de gens et qu'on puisse les réutiliser, qu'un maximum de personnes puissent les utiliser, il faut lever toute barrière à la réutilisation. Ces barrières, elles peuvent être financières, on peut demander aux gens de faire payer, c'était quelque chose qui était très commun en France, et là-dessus, il y a un véritable progrès, parce qu'effectivement, jusqu'à peu de temps, la plupart des administrations se disaient « Oh bah tiens, j'ai des données, ça va nous rapporter de l'argent ». Et donc là, il y a effectivement un véritable changement de la mentalité française grâce au projet data.gouv.fr. L'autre barrière possible, c'est la barrière
juridique,
légale, qui consiste à donc permettre légalement par une licence que toute réutilisation des données soit possible par chacun sans discrimination, c'est-à-dire que n'importe qui puisse redistribuer les données, les modifier et les redonner à d'autres. Et enfin, la dernière barrière, qui est la barrière technique, qui consiste à proposer les données dans des formats ouverts, c'est-à-dire des formats qui soient lisibles par n'importe quelle machine et très facilement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des formats propriétaires, c'est-à-dire les formats, par exemple, Excel de Microsoft, parce que Microsoft a un brevet sur ces formats-là et peut empêcher leur réutilisation sous certains formats. Et
donc
de la même façon, de manière générale, quand tous les journalistes ici se sont retrouvés à essayer de devoir manipuler les données, on a eu un exemple typique tout à l'heure. On avait un fichier CSV tout bête. Ce fichier CSV, c'est le standard des données de base. Et en essayant de l'ouvrir sous Excel, on avait des problèmes d'encodage, alors que, de manière générale, un fichier CSV peut s'ouvrir sous n'importe quoi sans souci, mais Excel rendait la chose beaucoup plus compliquée.
De manière générale, les choses vont mieux quand même. On comprend dans ton discours que les choses vont beaucoup mieux en France, mais qu'il y a encore des attentes.
Les choses vont beaucoup mieux, il reste des progrès à faire, et on compte sur l'équipe d'État Lab pour mener ces progrès au bout.
Toujours dans le monde associatif, on fait une petite bifurcation par toi, Gaël Musquet, bonjour.
Bonjour.
Tu es déjà passé à l'atelier des médias pour parler de OpenStreetMap. OpenStreetMap France que tu diriges, qui est de la cartographie qui s'appuie sur les citoyens, sur les gens pour exister. Tu peux expliquer en deux mots ?
Bien sûr. Alors, on a un peu le même principe que nos amis de Wikipédia. Nos contributeurs contribuent en fait à cette carte, à la construction de cette carte sous forme de wiki. Alors nous avons des éditeurs qui permettent de faire ça. Et ces données ensuite géographiques sont disponibles pour tout un chacun, librement, gratuitement. pour des usages divers et variés. Donc ce soir, on parle de politique, mais il y a des usages pour la navigation maritime, la navigation routière, les transports en commun, etc.
Donc, vous êtes donc clairement l'équivalent de Wikipédia, mais pour la cartographie
tout à fait.
Concurrents directs de Google Maps, par exemple,
donc on apporte un soutien, bien sûr, à toutes les initiatives qui visent à libérer, évidemment, des données géographiques. Donc on félicite encore l'équipe des Talab pour le travail qu'elle a engagé avec l'un de nos plus gros fournisseurs qui est l'IGN, même si tout n'est
donc
pas parfait.
L'Institut de Géographie Nationale.
Géographie Nationale. Même si, comme le disait Benjamin, tout n'est pas parfait, mais le travail a le mérite d'être fait et nous sommes bien sûr là pour veiller à ce que les améliorations soient faites et qu'elles soient bien menées.
Alors, qui dit élection dit en général géographie. Dans notre langage, on va même dire géolocalisation. Toi, ton regard à OpenStreetMap sur la situation en France, sur 2012, c'est quoi ?
Ben, il y a beaucoup des intervenants précédents l'ont souligné. On a quand même beaucoup de données qui manquent de géolocalisation, ne serait-ce même que pour les bureaux de vote. Il y a, même si des progrès ont été faits, il y a encore quelques petites choses à améliorer. Évidemment, sur la situation générale en France, la communauté OpenStreetMap est forte de 10 000 personnes. Donc j'invite tous les journalistes ou même d'autres personnes qui ont un intérêt à géolocaliser certains objets à nous écrire sur la mailing list. C'est un sujet qui tient beaucoup à cœur, même s'il n'y a pas de priorité dans OpenStreetMap. Tout doit être cartographié. Si vous consulter les archives de la mailing list, à l'approche de chaque événement, on se rend compte que les cartographes, que les bénévoles d'OpenStreetMap se focalisent autour d'un événement sportif, autour d'un événement politique en l'occurrence qui touche aujourd'hui notre pays. Mais tu le soulignais très bien, il y a des élections dans d'autres pays et malheureusement elles ne se passeront pas forcément aussi bien qu'en France. Et là encore, la communauté OpenStreetMap internationale est là aussi pour aider à remonter des flux de données sur des exactions, sur l'observation de ces élections et la géolocalisation de bureaux de vote ou d'opérations électorales dans d'autres pays que la France.
Dans des pays qui intéressent moins peut-être aussi Google et où du coup on a tout besoin des gens pour cartographier.
C'est tout aussi un projet technologique que l'on apprenne aujourd'hui à des gens avec leur smartphone, avec des GPS, des enregistreurs GPS, ben, à créer de la donnée. C'est aussi une évolution dans le statut même de l'Internet. Je défendais ce matin au Sénat. On n'est plus uniquement dans un mode de consommation de lecteurs simples. Aujourd'hui, l'Internet est aujourd'hui un producteur, un créateur de données et un vecteur d'information qui change aussi le rapport journalistique sur les événements, en l'occurrence cette année, les élections.
Bonjour Séverin Audet.
Bonjour.
Alors vous dirigez Talab, on en a parlé à plusieurs reprises, presque chacun des intervenants en a parlé. Qu'est-ce que c'est Talab? Ça a été lancé il y a un an, quasiment jour pour jour, enfin en février dernier.
Oui, alors ça n'est pas une start-up, donc le mot lancé, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, malheureusement. Ça a
mission.
Été créé au mois de février. C'est exactement... je vais être celui qui sera le plus chiant à chaque fois que je prendrai la parole autour de la table. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est mon boulot. C'est une mission interministérielle qui est sous l'autorité du Premier ministre, voilà, dont le boulot est de coordonner l'ensemble des administrations d'État pour ouvrir les données publiques, c'est-à-dire les rendre accessibles et réutilisables. Et son premier job, c'était évidemment de développer une plateforme, data.gouv.fr, de la mettre en ligne, ce qu'on a fait au mois de décembre, dans une première version, une version bêta. Et puis, une de nos missions, c'est aussi d'encourager les usages. Voilà.
Donc, d'encourager les usages, c'est-à-dire ?
La réutilisation.
La réutilisation et d'encourager également les administrations à fournir leurs données ?
C'est pas un encouragement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la coordination de l'ensemble des administrations d'État pour qu'elles mettent leurs données en ligne sur data.gouv.fr.
Comment ça se passe
donc,
alors ?
Une mission interministérielle, parce que je connais la question, a une autorité. Donc ce n'est pas un encouragement, c'est une autorité. Et puis c'est une décision qui a été prise. Donc, voilà.
Comment ça se passe alors, depuis un an, quasiment ?
Eh ben, je pense que les choses ont été résumées. Enfin, je ne fais pas la synthèse de tout ce qui a été dit en étant d'accord avec tout, mais je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. Je remercie tout le monde de le dire. Et puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Qu'est-ce que vous avez réalisé ? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous avez pu faire depuis depuis la création de la mission, donc il y a, en février dernier.
Ben, on a développé l'outil, qui est la plateforme française. Ça, je vous assure qu'on l'a fait entre le mois de juin et le mois d'octobre. Et je pense que tout le monde sait que quand on regarde l'outil lui-même, même si il a encore des axes d'amélioration, franchement, moi, je le dis, j'en suis assez fier parce que c'est un joli outil. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On a commencé à organiser structurellement l'ensemble des administrations d'État pour recenser, collecter, qualifier les informations publiques qui ont vocation à être rendues accessibles et réutilisables sur la plateforme française. Et puis, je suis en train de travailler un programme de soutien, d'encouragement, plus que d'encouragement, d'accélération de l'écosystème de l'open data. Ça, c'est, on a parlé de transparence démocratique, qui est un élément, évidemment, qui est le premier élément et un élément essentiel. Et puis, il y a aussi un effet induit, ce que j'appelle les gains économiques de la transparence, c'est toute l'activité que l'ouverture des données publiques peut produire. Tous les services que ça peut permettre d'enrichir ou de fabriquer. Et ça, je souhaite contribuer très très fortement à l'accélérer.
Du point de vue de votre institution, qu'est-ce que ça représente 2012?
Ben moi, je suis à la tête d'un. J'ai une crise de rire à droite.
Il y a Sylvain Lapoix qui rigole à côté, mais qui n'arrête pas de rigoler. Donc
non, moi, je suis à la tête d'un service public qui est une mission de l'État. Donc, par définition, par construction, je n'ai pas d'avis sur 2012.
Non, mais je ne vous demande pas pour qui vous allez voter. Je vous demande les élections de 2012, qu'est-ce que ça représente comme enjeu pour une institution comme la vôtre? Bien évidemment, pas de manière partisane. Hein, mais,
ah non, si c'est la question est de dire est-ce que Etalab va perdurer au-delà de l'élection, oui, bien sûr. Moi, j'ai un mandat de 3 ans qui a commencé en février l'année dernière. Donc, je vous laisse calculer. De ce point de vue-là, l'élection de 2012 n'a pas de.
Est-ce que ça représente un dispositif particulier, des recherches de données particulières? On a fait un petit tour de table où chacun a dit qu'il y avait quand même des manques.
Non. Un service public n'a pas de feuille de route en fonction d'une échéance électorale. Ah bah oui, ça c'est autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec.
Ne parlez pas en dehors du micro, s'il vous plaît, parce que sinon les gens n'entendent pas.
Benjamin disait, et aux demandes citoyennes, c'est un autre sujet, mais ça n'a rien à voir avec les échéances électorales.
Quelqu'un souhaite réagir? Donc le premier point à aborder, c'est l'état des lieux. Vous avez chacun dit...
Ça peut me permettre de vous dire quelque chose, parce que si la question c'est de dire... Pardon, je vous repique la parole. La question c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas des données qui nous manquent? Alors je peux vous dire, par exemple, que les limites géographiques des circonscriptions électorales seront bientôt en ligne sur data.gouv.fr.
Y compris celle de après le redécoupage? Parce qu'il y a deux limites de circonscription,
mais pas celle d'il y a une soixantaine d'années, les limites actuelles.
Elles changent justement. C'est Benjamin, c'est celle de mai prochain dont on a besoin. En fait.
Vous verrez quand on les mettra en ligne dans les quelques semaines qui
viennent. Quelqu'un souhaite. Sylvain, tu n'as pas arrêté de parler, donc j'imagine que tu souhaites dire quelque chose.
J'ai apprécié également beaucoup l'effort d'Etalab pour rendre public des données. Néanmoins, l'une des plus belles bases politiques pour moi qui reste disponible aujourd'hui, c'est l'INSEE. Simplement, j'ai pu m'en rendre compte avec pas mal de collègues en bossant sur des sujets très politiques, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que certes, il y a des problèmes formels en termes de codage, en termes de format des données, en termes de type de tableau, etc., mais aussi des problèmes tout cons de lisibilité des données. Et là, je parle vraiment de lisibilité des données au sens le plus basique du terme, c'est-à-dire avoir des tableaux qui soient utilisables et pertinents. Je vais prendre un exemple hyper précis.
Merci.
Voilà. On a fait des recherches sur les dépenses médicales. Là, cet après-midi, on est tombé sur un tableau absolument extraordinaire qui nous proposait les dépenses médicales non pas en euros courants, non pas en euros constants, non pas en francs ou un truc, entre 2005 et 2010, mais en euros de 2005, et qui allait de 2005 à 2010. Autrement dit, ça nous proposait de calculer l'évolution des dépenses médicales avec un cours de l'euro calculé il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans maintenant. Autrement dit, un truc qui n'a strictement aucun intérêt. Et néanmoins, quelqu'un a eu l'idée assez saugrenue, entre nous, de coder ça néanmoins et de le balancer sur le site de l'INSEE. L'INSEE reste une formidable source de données. Elle est concurrencée aujourd'hui par d'autres sources de données, y compris des sources de données ministérielles, qui régulièrement pulsent des données, et plus problématiques par des rapports qui, des fois, fabriquent des métadonnées, c'est-à-dire des agrégats de données, mais qui ne disent pas leur nom. Moi, j'ai un exemple tout bête, et qui a été repris par plein de confrères, comme si c'était une vérité pure et simple, c'est le coût des 35 heures. Données politiques, s'il en est, enfin, je vous laisse juge, vous, public. Mais le coût des 35 heures, Hervé Novelli, donc, qui est membre de l'équipe présidentielle du président de la République et par ailleurs ministre, a fait un rapport sur les 35 heures en France, qui avait donc été mis en place par Martine Aubry. Il a fait un calcul et il a dit les 35 heures ont coûté 20 milliards. Et ça a été relayé par plein de cadres de l'UMP, donc du parti majoritaire. Les 35 heures de 20 milliards, 20 milliards par an, 20 milliards par an, 20 milliards par an. Sauf que j'ai regardé le rapport et que, concrètement, ce que dit Hervé Novelli, c'est les 35 heures ont coûté 6 milliards et demi par an, mais la mesure de Nicolas Sarkozy sur la défiscalisation des heures supplémentaires, etc., etc., ça coûte 13 milliards et demi par an, mais ça a été fait par Nicolas Sarkozy pour contrer les 35 heures. Donc on peut quasiment dire que ça fait partie des 35 heures. C'est un peu comme si un mec vous réparait votre bagnole et vous disait, alors votre réparation va vous coûter 45 000 euros. Ah bah oui, le prix de la voiture plus les réparations. C'est un peu la même chose. Donc en l'occurrence, ce chiffre-là, une fois qu'il est arrivé, il apparaît une fois dans le rapport et après c'est fini. On dit 20 milliards.
Oui, mais là, il y a une négligence généralisée.
Donc il y a deux choses. Un, il n'y a pas un retour aux sources de la part des confrères et ça, c'est une erreur professionnelle. Et deux, pour certaines sources de données aujourd'hui, il n'y a pas une lisibilité de ces données qui les rend utiles. Et on parlait de données publiques. J'attends avec une très grande impatience qu'on puisse enfin voir sur Etalab le coût de démantèlement d'une centrale nucléaire, puisque on a cherché, on a trouvé un rapport parlementaire qui en parlait, on a trouvé des ONG, donc des organismes non institutionnels, indépendants, qui en parlaient, mais ça n'est toujours pas public et c'est un débat quand même qui est actuel et qui est un peu politique quand même.
Séverin Naudet, un mot notamment sur le premier problème soulevé par Sylvain Lapoix, qui est le fait qu'il y a des données qui sont aberrantes ou inexploitables et qui sont mises à disposition des gens. Ce qui à l'arrivée ne sert à rien, ça fait perdre du temps à tout le monde et à ceux qui les utilisent et veulent les utiliser et à ceux qui les compilent.
Non, je vais pas vraiment répondre à ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a toute une partie du sujet qui est pas mon job, mais je pense qu'il y a un vrai sujet sur la qualité du contenu et la qualification des données et la compréhension qu'on peut en avoir. Et ça, il y a énormément de travail à faire. Ce qu'il faut juste quand même avoir dans l'esprit, même si tous les militants qui sont ici, tous les journalistes sont absolument indispensables, comme sur tous les sujets, pour faire avancer des sujets, c'est que l'organisation de l'État, c'est pas quelque chose de tout à fait simple, et on fait pas en un claquement de doigts comme ça, et on change tout. Ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, s'agissant de la qualité du contenu, les choses vont prendre évidemment du temps. Bon. Et ça, il faut l'avoir dans le crâne, même si c'est légitime que chacun demande ce qu'il a à demander.
Mais il y a aussi un caractère, on le comprend avec l'exemple des centrales, ou avec l'exemple des 35 heures, il y a un caractère sensible politiquement aux données qui fait que j'imagine que pour vous, ça doit être difficile de convaincre certaines administrations.
Non, mais là, encore une fois, on n'est pas dans la conviction. C'est ma conviction qu'il est nécessaire de faire l'ouverture des données publiques et
votre devoir
de répondre à cette exigence de transparence démocratique qu'ont les citoyens. Moi, je suis pas un haut fonctionnaire de l'État. Je suis un entrepreneur à la base et si je suis venu faire ce job, c'est par conviction. Donc ça, c'est une conviction absolue. Mais par contre, c'est aussi surtout une décision qui a été prise. Juste une toute petite remarque. Parce que de temps en temps, et c'est normal, hein, c'est pas un reproche, mais il y a une séparation des pouvoirs dans ce pays entre l'exécutif et le législatif. Et quand le Parlement produit des données, c'est comme ça. Mais malheureusement, ça n'est pas à moi à les mettre en ligne ou à les rendre accessibles. Et il faudra que le Parlement décide de faire son propre son œuvre d'open data. Et ça, je souhaite que ça soit le cas, mais ça n'est pas à l'État de le faire.
Sylvain, un mot, et après c'est
juste
Nicolas.
Une phrase, je comprends tout à fait cette séparation des pouvoirs, je la respecte, et de ce point de vue-là, je n'irai pas contre. Simplement, le problème, c'est qu'il y a des éléments qui sont avancés par des ministres, donc des représentants, des personnes qui sont censées porter les politiques publiques, des éléments chiffrés, par exemple sur la politique énergétique, par exemple sur le nucléaire, et qui, en l'occurrence, ne sont appuyés sur aucune données accessibles au grand public et donc font juste l'objet d'une espèce comme ça d'agitation. Donc on n'a rien, on l'agit très très fort, ça fait énormément de bruit et ça on fait grossir le débat, mais sans base publique. Donc les citoyens ne peuvent pas vérifier. Et ça, c'est un problème.
Tu as un exemple où...
Le nucléaire, toujours, est central. Je vais te laisser... Benjamin me disait à l'instant, on ne peut pas savoir parce qu'on n'a jamais démantelé de centrale. Sauf qu'en l'occurrence, dans le débat public, aujourd'hui, on donne un chiffre sur le démantèlement des centrales et qu'on ne l'appuie pas sur des données publiques et accessibles.
Nicolas Kaiser-Brill, tu veux dire?
Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose qui transparaît bien dans le débat là, qui est l'avalanche de données qu'on a qui submerge un peu citoyens et journalistes, à commencer par ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain, c'est que utiliser des euros constants, c'est très pratique pour pouvoir mesurer l'évolution d'un prix, puisque on n'a plus à prendre en compte l'inflation, parce qu'en 2010-2011, il n'y avait pas d'inflation, il y en avait beaucoup plus avant, donc ça permet de faire des comparaisons, c'est un outil statistique très important, donc c'est pas n'importe quoi, et l'INSEE fait très très bien son boulot. Et c'est vrai qu'on retrouve bien ça, donc ça commence à changer un petit peu, je pense à la couverture qu'a fait Libération cette semaine, qui a été énormément dénoncée, où Libération disait que 30% des électeurs étaient prêts à voter pour Marine Le Pen en modifiant complètement le sondage. Donc on commence à se rendre compte que les données ne disent pas forcément la pure vérité et qu'il faut un travail journalistique derrière, mais on est encore qu'au tout début de ça.
Gaël Musquet.
Je vais juste faire un commentaire sur la qualité de données, à la fois en tant que technicien, puisque je suis encore fonctionnaire, mis en disponibilité, mais je suis encore fonctionnaire, donc je n'ai pas encore ce devoir de réserve. Donc, en termes de production de données, parfois les données ne sont pas assez bonnes. Et dans le milieu journalistique, comme dans l'open data, comme dans tout, hein, même au niveau scientifique, on a le devoir, je pense même qu'il faudrait même appeler ça une obligation, de croiser les sources, de croiser, de vérifier ce qui est dit. Et je prendrai le cas de la communauté OpenStreetMap. Il y a des données qui ont été mises à disposition par l'IGN, qui est une base GeoFLA, en fait, qui est la limite des communes, hein, la limite administrative des communes. Et il y a eu un débat donc, au sein de la communauté pour savoir ce qu'on fait de ces limites de communes. Il faut savoir qu'avant la libération de ces données, la communauté OpenStreetMap avait réalisé à la main... Il y a des imports avec d'autres partenaires, hein, la DGFiP pour ne pas la citer, c'est la Direction Générale des Impôts, sur l'import donc, de ces limites de communes. Et nous avons aujourd'hui à peu près 75% des communes, des limites de communes dans OpenStreetMap. Donc on pourrait se dire, ben, tiens, on a libéré le GeoFLA, donc la limite de communes, on va les importer dans OpenStreetMap, on aura du coup les 25% restants. On ne le fera pas, parce que cette base GeoFLA n'est pas assez précise pour pouvoir être importée telle qu'elle. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que l'on va continuer notre travail de crowdsourcing, et c'est aussi notre rôle, à nous, lecteurs, à nous, développeurs, à nous, associations, de vérifier les données, même quand elles sont fournies par l'État, de les vérifier, de les croiser, et ensuite d'expurger, de pouvoir avoir une donnée la plus fiable possible.
Donc on comprend que les données, ce n'est pas simplement l'État, et on n'a pas à les attendre uniquement des grandes institutions. Un mot, Benjamin Octabanou?
Oui, sur le data journalisme en général, en fait, c'est un mot qui est très à la mode. Quelqu'un me disait récemment, c'est pas nouveau, des infographies, il y en a depuis toujours dans les journaux. Et c'est vrai, je pense que par contre, ce que le data journalisme apporte, et c'est ce qui est un peu ce que l'expérience d'aujourd'hui a montré, c'est que c'est pas uniquement le recoupement, effectivement, l'insertion du développeur dans le journalisme politique ou pas. Et l'ajout d'une vision, peut-être, qui est plus axée sur des ensembles de données. Et non pas simplement comme, effectivement, le journaliste avant qui allait chercher une donnée spécifique et qui allait peut-être la tracer. Alors que le nouveau data journaliste, il va la recouper avec une autre, il va la mélanger, il va essayer d'en faire quelque chose de dynamique et apporter peut-être de nouvelles informations. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt aujourd'hui du data journalisme. Et pour ça, effectivement, c'est là qu'on a besoin d'accéder à des données. Et c'est cette vision du développeur qui fait que, il se dit, ah mais tiens, il y a telle information là qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas, il faudrait qu'on aille la récupérer. Et c'est justement ça qui va permettre, effectivement, notamment dans le cadre de la campagne, de faire ce qu'on appelle effectivement le fact-checking et le fait
de vérifier
les sources. Et enfin, Dieu sait que c'est nécessaire. Regard citoyen, on fait les frais depuis 2 semaines. Ça parle dans tous les médias d'un nouveau classement des députés qui serait sorti sur nosdéputés.fr. C'est absolument pas le cas. On n'a rien fait de nouveau, enfin, il n'y a rien de nouveau. C'est simplement, il y a une page de synthèse de l'activité des députés qui est mise à jour toutes les 4 heures depuis la sortie du site. Et il y a des journalistes qui l'ont découverte et qui ont cru que c'était un nouveau classement qui venait de sortir. Et alors qu'on ne fait pas de classement, que c'est expliqué. Et donc, il n'y a pas de vérification de la source, et typiquement, c'est un bon exemple. Mais donc, du coup, je pense que avoir accès à ces données, ça va être essentiel. Et dans le cadre de la campagne, on va avoir besoin justement, ouais, des limites des circonscriptions électorales, parce que pour tracer les résultats des prochaines législatives, ben si on n'a pas les limites des futures circonscriptions, comment on va faire ? Alors, je crois que lemonde.fr a une carte quelque part, mais qui a pris beaucoup de temps à créer, et ça pourrait être intéressant de la faire libérer. Mais effectivement, je peux comprendre que l'auteur y tienne et que ce soit, enfin, qui ait à cœur. Mais donc, dans tous les cas, c'est pour ça qu'on va sortir Candidata, mais je te laisserai en parler.
Alexandre Deschenais, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur la carte. En tout cas, tu voulais prendre la parole.
Oui, moi, je voulais poser une question au responsable d'Etalab, savoir dans quelle mesure on pouvait lui réclamer des données. Alors, je suis allé voir, par exemple, sur le site data.gov.uk, donc la version britannique du site, et dans les données les plus populaires du site, il y avait une liste de tous les déplacements ministériels depuis le début du gouvernement, avec le prix que ça coûtait à l'État. Je sais que René Dosière régulièrement demande le prix d'un déplacement avec une question au gouvernement, donc ça prend le temps de le publier au JO, d'attendre une réponse du
journal officiel
s'il souhaite répondre. Et je voulais savoir si Etalab avait les moyens de dire, bon, on nous demande beaucoup combien coûte un déplacement de ministre, il faut que vous créez cette donnée. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez un peu d'autorité, est-ce que ça sert dans ce cas-là?
Je vais t'énerver, je vais pas répondre tout de suite. Je vais revenir parce que c'est un peu le même sujet sur ce que Nicolas disait tout à l'heure quand on demande en fait un document administratif ou une donnée à une administration qui répond pas à la procédure de la CADA, etc. C'est vrai que je suis d'accord avec Nicolas, les textes sur lesquels on s'appuie aujourd'hui sont un tantinet désuet et décalé par rapport à la société de l'information dans laquelle on vit.
Bon. 33 ans.
C'est pas non. Non, mais ça, c'est mignon, mais c'est la loi de 78, elle a été modifiée en 2005, ça fait pas 33 ans, sinon on serait très jeune, ça me ferait plaisir, mais... Donc, c'est pas la loi de 78, c'est une manière amusante de l'appeler, mais c'est la loi de 2005, en réalité. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a certainement beaucoup de choses à améliorer. La Commission européenne vient de présenter une proposition de révision de la directive qu'on appelle la directive PSI, qui est ce qu'on transposera dans le droit français et qui viendra modifier à nouveau ce texte. Je pense que ça donnera lieu à un débat public très riche, à un débat au Parlement. Je pense que tous les gens ici autour auront l'occasion de dire ce qu'ils attendent comme modification dans les textes. Ça sera un moment important. La dernière fois qu'une directive sur le sujet a été transposée dans le droit français, elle a été faite par ordonnance. C'est une erreur. Évidemment, on ne peut pas transposer comme ça des textes sur le droit d'accès à l'information publique de l'ensemble des citoyens dans ces conditions-là. Ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'il y ait un débat public. Et je pense que, évidemment, même si la démarche qui est la nôtre aujourd'hui est en avance, sur la réalité des textes, il faudra les améliorer. Et je vous invite déjà à regarder ce que quand ça sera public, ce que va proposer au Parlement comme texte OpenStreetMap 120. Je le dis pour ceux qui ne voient pas.
Merci Gaël.
Il a une soirée. Voilà, c'est moins rigolo. Sur ta question, on a déjà mis en ligne beaucoup de données du budget de l'État, telles qu'on les trouvait absolument pas auparavant. Alors après, il y a aussi souvent un fantasme sur le fonctionnement d'un certain nombre de choses. Partout où je vais, on me dit « Mais alors, les notes de frais des ministres, on les a quand ?» Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de note de frais de ministre en France, contrairement à certains pays. Il y a un budget qui est établi pour chaque ministère. Et ensuite, dans ce budget, il y a une partie qui est dévolue au fonctionnement même du ministre et de son cabinet.
Sans qu'il ait à rendre de compte ?
Non, tout ça est voté. Je vous rappelle que les fonds secrets, on n'existe plus. Hein. Ils ont été supprimés par Lionel Jospin. Donc, il n'y a plus de secrets sur le fonctionnement budgétaire de l'État. Donc, Donc tout ça est voté par le Parlement. Et alors ça peut être compliqué et fastidieux d'aller retrouver chaque ligne quand c'est pas évidemment en ligne facilement accessible et réutilisable. Et il faudra que ça le soit de plus en plus et de manière de plus en plus précise, avec ce qu'on le niveau de granularité, voilà, c'est le terme technique le plus grand. Voilà, c'est, on en est au début. Évidemment, on tend au meilleur.
Sylvain, on parlait tout à l'heure d'enjeux démocratiques et en l'occurrence, moi j'ai eu l'occasion.
Noël est passé, hein, c'était il y a 15 jours.
Pardon ?
Je dis Noël est passé.
Mais je ne crois pas au Père Noël. Par contre, je crois au fait que l'État a sa propre puissance publique. Mais ça, c'est, on peut en débattre aussi, mais c'est beaucoup plus long. On parlait tout à l'heure du caractère démocratique de l'accès aux données et en fait, j'ai remarqué, en traitant un sujet qui m'est cher, puisqu'il est enfoui à 2000 mètres de profondeur et qu'il permet d'allumer des gazinières ainsi que des maisons tout entières de l'autre côté de l'Atlantique, à savoir les gaz de schiste, c'est qu'il y avait effectivement, dans une certaine mesure, des éléments d'information du public qui relèvent de la loi, qui n'étaient pas respectés et qui étaient en violation de ce principe-là, du fait de la forme dans laquelle les données sont soumises. Je vais prendre deux exemples précis. Et par ailleurs, on laisse dire des conneries parce qu'on ne fait pas passer des éléments de pure définition légale de certains éléments du quotidien. Premier exemple, quand nous avons eu l'idée saugrenue mais néanmoins utile de faire une carte des permis d'exploration pour les gaz de schiste accordés en France, nous sommes tombés sur des arrêtés ministériels. Les arrêtés ministériels, comme le veut la loi en France, sont publiés au journal officiel afin d'être consultables par tous et par chacun. Ils doivent normalement faire l'objet d'une formalisation compréhensible de tous, puisque nul n'est censé ignorer la loi, et permettant à chaque citoyen de s'informer sur sa propre situation. Or, nous avons découvert qu'il y avait bel et bien des coordonnées géographiques qui mettaient les limites de chacun des permis. Tu m'étonnes. Seul problème, les coordonnées géographiques, en l'occurrence, n'étaient pas compatibles avec Google, n'étaient pas compatibles avec les logiciels de cartographie. Et pour cause, ce sont des références géographiques utilisées par le BRGM, qui est le Bureau des Mines français, qui date des années 70, qui ne sont utilisées qu'en France, qui ne sont compatibles avec aucun logiciel de cartographie actuel, qu'on appelle le Lambert 2. Et encore, il y a plein de trucs derrière aussi, hein. Le Lambert 2, qui n'a rien à envier au XHTML. Ou bien au CSS3, qui sont des codes de programmation pour ceux qui ne sont pas en train de sourire là dans le fond. Concrètement, le Lambert 2, vous pouvez rien en faire. J'ai personnellement appelé avec des collègues, des géographes, des gens de l'IGN, et je leur ai demandé, est-ce que vous avez un truc pour convertir ça? On voudrait juste savoir placer sur une carte, les limites de ces permis d'exploration de gaz de schiste pour savoir qui est concerné. Eh bien, le type de IGN nous a dit, on est vraiment désolé, on a quelques logiciels, ils sont payants pour la plupart. Donc, pour comprendre ces cartes et pour que ces données soient vraiment publiques et utiles au public, que cette loi, cet élément de la loi soit compréhensible par un citoyen en lambda, il faut un logiciel payant qui est vendu par l'IGN et qui implique la connaissance de référentiels géographiques qui datent des années 70, utilisés uniquement en France, incompatibles avec aucun logiciel de cartographie actuellement en circulation.
Donc, en tout cas, l'idée.
J'ai un deuxième élément.
L'idée forte, et c'est une idée qui revient beaucoup, c'est qu'il faut utiliser des langages d'informations qui sont compréhensibles par le plus grand nombre et
mais
certainement
de façon,
pas propriétaires.
Mais de façon plus générale, en cherchant dans les données, en voulant faire parler les données et ce qui nous est livré comme une information publique, on se rend compte qu'une partie de l'information publique, comme une partie de la loi, il y a pourtant eu des lois de simplification administrative qui ont été votées, qui ont d'ailleurs été l'occasion de faire passer certains cavaliers pour réformer le code minier. Théoriquement, tout ça, on en parle sans arrêt de simplifier le droit, mais on ne le fait pas. Simplifier le droit, c'est aussi, tout simplement, mettre une carte en bas d'un arrêté ministériel pour que les paysans qui habitent au fin fond du Larzac, au lieu d'appeler ovni.fr, qui a fait une carte sur les permis de gaz de schiste, pour me demander, est-ce que vous savez si ma ferme est concernée ou pas, je suis à 5 km près, qu'ils regardent juste et qu'ils aient une carte sur laquelle ils puissent zoomer jusqu'au dernier degré et qu'ils sachent enfin s'ils sont dedans ou pas. Le deuxième exemple que j'aurais, c'est qu'il y a eu plein de polémiques sur le prix du gaz naturel. Et les gens ont dit n'importe quoi, mais ça a été au bout du monde, sur comment on faisait le prix du gaz. Eh bien en France, je vous le révèle à tous et toutes qui êtes ici résumés, le prix du gaz, il est fixé par la loi, et même par une commission au sein de l'Assemblée nationale, selon des critères. Alors ils font un mélange, ils prennent le prix du gaz acheté en gros, le prix du pétrole, c'est un petit mix comme ça, il a été changé récemment. Donc quand on commence à dire le prix du gaz il est follement cher, non c'est faux par rapport au reste du monde, non. Le prix du gaz c'est GDF qui le fixe, non c'est faux, c'est le gouvernement. Sauf que le problème c'est que quand on commence à brouiller les cartes comme ça et à garder sous le boiseau, pourquoi on n'aurait pas, en bas de la facture de gaz de chaque personne, la formule qui a servi à le faire? C'est la moindre des choses. C'est les citoyens qui payent.
On va.
Je peux dire un mot?
Ouais. Enfin, c'est vrai. Pardon, après, on va peut-être prendre une ou deux questions du public, si vous le souhaitez, ou apporter des informations complémentaires.
Ouais, Sylvain est très en forme, mais juste, faut, enfin, je veux pas revenir sur tout, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, parce que quand on tu parles du prix du gaz, je vais pas revenir sur le fond, mais les choses sont pas fixées à la petite semaine. C'est le Parlement, c'est on est dans une démocratie représentative, donc les gens ont été élus, quel que soit son si on est content ou pas content de des gens qui ont été élus, c'est pas des gens qui n'ont aucune légitimité qui se retrouvent dans une cave et qui décident du prix du gaz. Bon. Et le Parlement, c'est pas le gouvernement. Juste et pour répondre à un élément supplémentaire aux questions de Sylvain, d'Alexandre et de Nicolas, évidemment il y aura très vite, j'espère, le temps qu'on les développe et qu'on soit en mesure de répondre et d'avoir un service à la hauteur de ce que tout le monde attend, des fonctionnalités collaboratives et d'échange sur data.gouv.fr qui vont pouvoir permettre à tout le monde de venir demander des choses, demander des explications pour une meilleure compréhension ou des données qui n'existent pas, évidemment.
Question. Attends, Benjamin, ton micro est pas...
Oui, si je peux me permettre, cet outil existe déjà. On a proposé avec Regards Citoyens un site qui s'appelle debug-data-gouv.fr sur lequel n'importe qui peut présenter ses demandes, quelles données il veut, présenter... Quelle fonctionnalité manque sur data.gouv.fr? Typiquement, il n'y a pas de RSS.
Oui, alors sauf que l'administration, bête, mais... elle va pas venir discuter sur debug data.gouv.fr, pardon. Et les experts et les producteurs et les fonctionnaires qui produisent la donnée, on les retrouvera sur les lieux de discussion et d'échange de data.gouv.fr et on pourra leur poser des questions directement.
On a compris.
Et ils y répondront. Ce n'est pas question tout à fait la
public.
Même chose.
C'est dommage.
Mais merci à debug de nous aider à débugger, mais on l'avait déjà pas mal débugué tout seul.
Elle ne va pas répondre dessus, mais elle peut au moins consulter. Question du public.
Merci. Bonjour, je m'appelle Philippe Vacherot, je suis président d'une association qui s'appelle Capucine.net, dont l'objet est de favoriser l'usage de la technologie de façon simple, sécurisée, éthique, équitable, dans une perspective de développement durable. Ça fait un moment que je dis ça depuis 2000. Et alors, je pose la question aujourd'hui. Pensez-vous que l'identité numérique soit un bien commun, universel et inaliénable? C'est la troisième fois que je pose cette question. La dernière fois, c'était un débat entre Fleur Pellerin et Franck Lester qui était animé par Benjamin. Il connaît la réponse. Elle était bonne, la réponse. Aujourd'hui, je la pose aux journalistes. Qu'en pensez-vous? Merci.
Quelqu'un souhaite répondre? Alors, on sort un petit peu de la question liée aux données. Benjamin, tu connais la réponse. Identité numérique. Benjamin, tu veux...
C'est vraiment pas mon sujet.
Quelqu'un souhaite répondre? Non. Bon. Bon, les journalistes sont ignorants. Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Jean-Baptiste, là-bas. Ingold.
J'étais un petit peu étonné de ce qui s'est dit sur, par exemple, cette question de données géographiques. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on a demandé à l'administration, c'était de donner des données brutes, ne pas retarder leur faisant faire des tas de transformations. Si, au bout du compte, leurs données de départ, c'est des données qu'ils utilisent chez eux, qui sont celles-là, pourquoi retarder la publication en obligeant à utiliser des formats que les administrations ne maîtrisent pas encore?
Donc ça, c'est dans l'exemple du Lambert qui est...
Voilà. Alors, je veux bien répondre. C'est qu'en l'occurrence, la loi stipule que nul n'est censé ignorer la loi. Et à ce titre, la publication au Journal officiel des lois qui ont été votées et qui entrent en vigueur en France implique que les données soient manipulables et informatives. Le problème, c'est que si concrètement je dois faire un premier cycle de géographie pour comprendre si je suis ou non concerné par le tracé d'une autoroute, l'exploration des gaz de schiste, ou bien l'ouverture d'une mine d'uranium ou l'implantation d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires, je considère que, en l'occurrence, on n'est pas dans l'information du public. Donc, à mon sens, ça va à l'encontre, peut-être pas de la lettre, mais en tout cas de l'esprit de la loi.
Moi, je croyais qu'il n'y avait plus de permis pour l'exploration du gaz de schiste, mais je peux me tromper.
Je vais vous donner des liens.
Il m'avait dit de ne pas le faire.
Non, je vous donnerai des liens après.
Ne changeons pas de sujet si ça ne vous dérange pas.
Juste un mot quand même sur les données géographiques. On a rendu accessible sur data.gouv.fr plus de données géographiques qu'on n'en a jamais trouvé avant dans ce pays sur l'intégralité sur les services publics. Alors, je dis pas que c'est parfait parce que je vois Benjamin saisir dessus du micro en disant qu'est-ce qu'il raconte. Simplement, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui n'existaient pas du tout avant. Je ne dis pas que c'est exhaustif, mais...
Il se trouve que OpenStreetMap, jusque-là, avait des données plus précises en fait, que ce qui a été publié, parce qu'ils utilisent des données qui sont publiées notamment aussi par la NASA et qui sont pour le coup plus précises. Il se trouve que l'IGN possède les mêmes données à la même précision, mais celle-ci,
elle ne publie pas les coordonnées géographiques des commissariats de police en France, Benjamin.
L'IGN a les données à la bonne précision, mais l'IGN refuse de les donner et l'IGN les vend. Voilà, c'est ça la situation en France.
Juste pour ajouter ça en deux secondes, il y a un très bon site aux États-Unis, je vous donnerai l'adresse aussi, qui s'appelle SkyTruth, qui est fait par un ancien consultant en imagerie satellitaire, qui est un type qui a bossé pour toutes les entreprises pétrolières, minières, gazières, etc., et qui un jour a décidé de passer dans le non-profit, à monter une ONG.
Et but non lucratif. Donc.
Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de l'information et du décodage d'images satellitaires. Et ce qui est très amusant, tu en parlais à l'instant, c'est que la plupart de ces données satellitaires qui révèlent des trucs aussi anodins que des nappes de carburant qui se déversent de plateformes pétrolières ou bien des millions d'hectares de déforestation dans la forêt amazonienne, ces données sont pour la plupart payantes puisque ce sont des satellites privés qui les prennent avec différents filtres et que la majeure partie du pognon qu'il a, en l'occurrence, je crois qu'il a peut-être un salarié en tout et pour tout, mais il fait un travail remarquable qui est sur Flickr en non-profit qui est accessible à tous, la majeure partie des photos qu'il utilise... Eh bien, il doit les payer. Et la majeure partie du pognon qui lui est donné est utilisée à payer des photos qui coûtent 1000, 2000, 10 000, 15 000 dollars parfois, juste pour avoir cette vision-là. Donc, ces données-là, en l'occurrence, elles sont plus qu'utiles et moins qu'accessibles.
Question du public.
Oui, bonjour. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Transparency Act, il me semble. Et c'est exactement le système culturel inverse de chez nous, c'est-à-dire que ce sont les administrations doivent donner, par définition et en première intention, et ce sont elles qui doivent faire un éventuel recours pour bloquer la sortie d'informations. Est-ce que vous imaginez que cette révolution culturelle peut arriver chez nous ?
C'est vrai.
C'est marrant, je me doutais que vous me passeriez la parole. Je suis pas législateur, moi je suis pas député ou sénateur, donc un jour peut-être, mais pour l'instant non. Je pense que vous avez raison sur le constat. Je pense qu'on vient de montrer qu'on était capable de réfléchir à une autre démarche, c'est-à-dire à une démarche d'offre à la place d'une démarche de demande, puisque la création de data.gouv.fr, c'est bien ça. Et maintenant, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon, mais ce genre de débat, de questions, devra avoir lieu au moment où on présentera un texte devant le Parlement et où il y aura un débat public, et ça sera évidemment une question extrêmement légitime.
Et c'est souhaitable, de votre point de vue, ce type d'évolution ?
C'est ce qu'on est en train de faire, donc je peux pas dire que c'est pas souhaitable. Après, les modalités, tout ça est quand même complexe, donc les modalités juridiques doivent être débattues par les politiques et ceux qui en ont la responsabilité, mais ça me paraît être le sens de l'histoire.
Ça paraît souhaitable, donc.
En général, quand on libère énormément de données, il y a un écosystème de développeurs ou d'intérêts publics ou privés qui s'en emparent et qui essayent de faire un certain nombre de choses. Les mashups, c'est un des nombreux exemples de ce qui peut être fait. Est-ce que l'État a une vision sur la manière dont cet écosystème doit évoluer, puisque un certain nombre d'entreprises privées vont utiliser de la donnée publique, la retraiter et y ajouter de la valeur pour pouvoir l'analyser? Et est-ce que l'État a une vision pour internaliser une partie des compétences qui sont nécessaires pour développer des applications qui permettent justement de retraiter de la donnée et de mieux la comprendre?
Votre prénom, c'est, pardon ?
Gabriel.
Moi, je ne crois pas que l'État ait pour mission d'expliquer à l'économie ce qu'elle doit faire. Je ne crois pas que l'État doive expliquer aux entreprises comment ils doivent travailler. Je pense qu'en général, d'ailleurs, sur ces sujets de nouvelles technologies, les entreprises sont très en avance sur les États d'une manière générale.
Ça serait extrêmement décalé d'essayer d'expliquer à l'écosystème comment il doit faire. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je considère qu'il est du rôle de l'État, et en l'occurrence de cette mission que je dirige, qui d'aider et de permettre une accélération et de contribuer à ce que l'environnement permette à cette accélération et à cette explosion de l'écosystème et à cette activité. Je rappelle que c'est évalué entre 40 et 80 milliards d'euros dans l'Union européenne par an s'agissant du marché, et à 150 milliards d'euros s'agissant de l'impact économique et social, même si cette notion peut manquer de précision. Je ne crois pas, en revanche, si j'ai bien compris la deuxième partie de la question, mais je ne suis pas sûr, que ça soit encore une fois à l'État de se substituer à l'écosystème, et donc certainement pas à lui de cannibaliser les potentialités du marché et de fabriquer quoi que ce soit, que des entreprises, que des journalistes, que des organes de presse, que des chercheurs, que des étudiants pourraient faire beaucoup mieux parce qu'ils en ont la compétence, le génie, et que ce n'est tout simplement pas le rôle de l'État.
Après, c'est un débat sur le service.
La deuxième partie de la question, mais
Nicolas,
sur cet écosystème d'app, ce dont on s'aperçoit dans les collectivités qui ont ouvert leurs données il y a 3 ans à peu près, c'est qu'il y a assez peu de réutilisation au final au vu des investissements consentis par la municipalité. Je prends l'exemple de Rennes où on a énormément d'applications qui sont très bien, mais on a 5 000, 10 000 réutilisateurs sur une métropole où il y a 200 000 contribuables, c'est pas énorme. Je ne vais pas critiquer Etalab, mais j'ai le sentiment qu'il peut se passer la même chose. Donc, je vais critiquer Etalab. Il y a par exemple Etalab qui a mis en ligne le fichier BAAC qui recense tous les accidents de voiture en France. Et moi, j'avais demandé ce fichier auparavant pour faire une application, justement. J'étais super content quand Etalab a mis en ligne le fichier. C'est génial, je vais enfin pouvoir faire mon app. Or, il manque une donnée. Moi, je voulais faire quelque chose en fonction des modèles de voiture pour voir quels étaient les modèles qui avaient le plus d'accidents. Cette donnée n'est pas dans le fichier. Donc Etalab a dépensé l'argent du contribuable pour le mettre en ligne, et au final il n'est absolument pas utile pour les entrepreneurs. Et j'ai peur que sur les 285 000 fichiers d'Etalab, il y en ait 284 900 qui ne servent absolument à rien. Et du coup, c'est pour ça que, pour revenir sur ce que disait Pascal tout à l'heure, on a besoin d'un Transparency Act à la française, ou même d'une loi de 78 qui soit appliquée, où les entrepreneurs vont demander les données dont ils ont besoin. Et les administrations s'obligent et les donnent. Et juste un dernier truc là-dessus, moi j'avais demandé à Séverin, au nom d'Etalab, un budget pour justement aller faire la pub de la loi de 78 auprès des administrations, où tu m'as dit que c'était absolument pas une bonne idée.
Non, mais d'abord, Etalab n'a pas utilisé l'argent du contribuable, faut pas le dire comme ça, parce que c'est amusant, mais c'est un peu caricatural. Le fichier existait. Et il a été mis en ligne, ça n'a pas coûté un centime. Que le fichier soit, il lui manque une donnée par rapport à la réutilisation que toi tu voulais en faire, je peux le comprendre. Maintenant, dire comme ça, ex abrupto, que tout est inutilisable et ne sert à rien parce que tu n'en as pas trouvé de réutilisation, me paraît un peu excessif. Je pense que y a deux choses. Il y a ce qu'on est capable d'identifier et de mesurer immédiatement, qui sont des réutilisations des applications mobiles, etc., qu'on peut voir. Mais il y a surtout une économie énorme de la data, qu'elle soit publique ou qu'elle soit des entreprises, qui vont s'enrichir d'un marché global de la donnée publique. Je ne prétends pas qu'aujourd'hui, on a atteint le volume nécessaire. On aura un marché global de la donnée publique et on atteindra le point critique et les milliards dont je parlais tout à l'heure, quand toutes les collectivités l'auront fait, quand l'État en aura ouvert encore plus, et quand tous nos voisins l'auront fait en Europe aussi. Donc on est au commencement, et voilà.
Alors, c'est un sujet ardu, on a encore plusieurs choses à faire, à dire. Sylvain, tu as droit à 17 secondes de parole, tu peux résumer ou pas, sans envoler lyrique, si possible.
Concrètement, il me paraît important de soulever le fait que le Transparency Act, il y en a dans beaucoup de pays et il est utilisé de façon très différente. Je vais donner 2 exemples très concrets, très courts. Le premier, c'est que suite à la prise de position du gouvernement britannique contre une directive européenne sur les carburants,
Une ONG, en l'occurrence Greenpeace UK ou les Amis de la Terre UK, Friends of the Earth, a demandé au gouvernement britannique, eh ben écoutez, on trouve que la position des Anglais est un peu bizarre, on aimerait bien avoir des éléments, des échanges entre le gouvernement canadien et le gouvernement britannique. Et il se trouve qu'ils ont publié les mémos qui étaient de l'ordre de ces données qui n'existent pas, dont vous parliez tout à l'heure, des notes de frais, etc. Enfin non, je déconne, c'est méchant. Mais quoi qu'il en soit, ces données existent et elles étaient dans des ordinateurs. Les Amis de la Terre ont demandé et ils les ont eues. Ils ont réalisé qu'en fait, il y avait eu des échanges entre Shell, donc compagnie pétrolière, entre le gouvernement canadien, ultra pro sable bitumineux, donc grosse industrie pétrolière dégueulasse, et le gouvernement britannique qui avait influencé ces échanges et où les Canadiens remerciaient. Ça, ça a été permis par une loi. En Slovénie, il y a deux journalistes, il y a un très bon article qui est publié aujourd'hui sur Café Babel, qui ont demandé concrètement qu'est-ce que le gouvernement slovène avait fait pendant la guerre pour faciliter des ventes d'armes au niveau des Balkans et entretenir le commerce avec les Serbes, avec les Bosniaques, etc. Et ils ont eu ces informations. C'était en 2007, le Transparency Act slovène, et en 2007, ils ont écrit un truc, et le gouvernement leur a filé des infos, et aujourd'hui, ces deux journalistes-là, donc il y a un article sur Café Babel très intéressant à ce sujet, eux sont aujourd'hui menacés, alors qu'ils ont obtenu ces données par le fait d'une loi. Et il y a un député français qui s'appelle, voilà, évidemment, c'est là où son nom m'échappe, député de la Lozère, qui, un jour, a voulu savoir un truc tout bête, c'est sur quel document administratif le ministère de l'Environnement s'est appuyé pour accorder les permis de gaz de schiste. Eh bien, ce député a été obligé de passer par la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir ces documents. Donc,
on vous donne... La commission par laquelle passent normalement les journalistes.
Par laquelle passent les contribuables ou les citoyens qui veulent juste savoir comment. Donc, un député a été obligé de se tourner vers la CADA. En l'occurrence, c'est Pierre Morel à l'huissier, député de la Lozère, qui est obligé de demander... De supplier par un recours administratif pour avoir ces données. Donc la transparence, en l'occurrence, s'étale sur une très 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 longue distance.
Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, un programme à présenter, peut-être une toute dernière question. Quelqu'un qui voulait souhaiter poser une question? Ouais. Allez, une toute dernière question. Ensuite, je sais pas qui est le porte-parole de candidata.fr. C'est pas moi. C'est toi. Ok.
En fait, je voulais relancer Séverin Audet sur la question qui a déjà été posée, parce que je vous ai entendu sur une émission radio.
Qui a déjà été posée, mais il va expliquer.
Voilà, concernant l'écosystème de développement pour la réutilisation des données ouvertes. Et je vous ai entendu parler à la radio, je ne sais plus quelle radio, mais où vous disiez qu'il y a des partenariats à venir, donc entre les écoles, et puis l'État Lab, et puis mon gouvernement, avec une couverture médiatique nécessaire, etc. Donc je trouvais ça très intéressant. Et du coup, je voulais en savoir plus, et j'étais étonné que là, vous ne donniez pas suite. Mais bon, on n'a plus beaucoup de temps, donc je ne sais pas si vous avez le temps de couvrir ça rapidement.
Alors, en un mot, et ensuite on passe...
En 17 secondes, juste pour mémoire, pour Nicolas, le modèle des voitures, c'est considéré comme une donnée personnelle parce que ça permet de retrouver les gens. Le projet auquel vous faites référence, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait. C'est le programme de soutien où, effectivement, je vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que d'abord, on n'a pas le temps, il va m'en vouloir. Et ensuite, parce que je vais le présenter dans quelques jours ou semaines, j'espère. Mais c'est exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire qu'on va réunir tout un écosystème, des fonds d'investissement, des grandes entreprises, des centres de recherche, des institutions de financement pour aider toutes les start-up, tous les développeurs qui se serviraient de données publiques et pas seulement à trouver des débouchés commerciaux, de la visibilité, un financement, etc., etc.
Alors, on va dans quelques instants dévoiler candidata.fr. Juste avant, pour clore cette table ronde et ce débat, je propose à chacun d'entre vous, dans l'ordre comme ça, de me dire quels sont, après réflexion, après toutes ces discussions, synthétiquement, vos attentes par rapport à cette année 2012 et plus généralement par rapport à l'accès aux données, que ce soit en France ou même dans le reste du monde. Nicolas Kaiser-Brill, en plus toi tu as une dimension internationale parce que tu vis en Allemagne et travailles un peu. Voilà. Nicolas.
Comme ça a été dit plusieurs fois au cours de la discussion, j'espère qu'en 2012, on pourra avoir à la fois des journalistes qui comprennent, qui savent ce que c'est qu'une statistique et des administrations qui donnent accès aux chiffres qui permettent de construire ces statistiques.
C'est très synthétique, merci Nicolas. Alexandre Deschenais.
Moi j'aimerais bien que tous les ministères donnent des données brutes et pas des données agrégées. Et que,
en fait, agrégées, c'est-à-dire en gros qu'ils ont déjà travaillé.
Qu'ils ont déjà travaillé, ils font des moyennes par département ou par région ou nationale. Et je voudrais les données le plus brutes possible et ils les ont et ils devraient les donner.
C'est vrai.
Moi, j'espère que je vais avoir le temps de dormir en 2012, un peu plus. Non, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de l'année, on ait fait un très grand pas supplémentaire vers cette place de marché globale dont je parlais tout à l'heure, et que donc toutes les collectivités territoriales se soient engagées sur le même chemin, et que nos voisins en Europe se soient engagés avec beaucoup d'ambition, de volonté sur le même chemin.
Juste en un petit mot, le data journalisme est apparu en France pas à n'importe quel moment, il est arrivé au même moment que le sarkozysme et que certaines méthodes, notamment de benchmark et de la RGPP, qui consistaient concrètement à évaluer l'efficacité des choses par rapport à des chiffres froids. Et pour moi justement, mon espoir pour 2012, notamment pour les journalistes et également pour les administrations, c'est qu'on sorte de ce sarkozysme de la data, c'est-à-dire de la politique de la performance, des chiffres bruts, etc., pour qu'on arrive dans une intelligence un petit peu de tout ça, qu'on les mette en perspective et qu'on réalise qu'un chiffre tout seul, ça sert à rien, qu'avec un peu de journalisme, ça devient intelligent et qu'avec l'aide des citoyens, ça peut même carrément devenir très politique.
Pour toi, le journalisme de données, c'est un contre-pouvoir aux opinions, aux sondages d'opinion, etc.
Le jour où on arrêtera d'essayer de faire des trucs aussi inutiles et incohérents que chiffrer les programmes, et où on commencera à se demander concrètement plutôt comment on dépense l'argent plutôt que comment on l'économise. Par exemple, il y a pas mal de choses qui pourront évoluer vers une plus grande intelligence des données. Et une plus grande intelligence des données, ça se fait avec les institutions qui les donnent, les journalistes qui les traitent et les citoyens qui les critiquent.
Benjamin, et du coup, tu vas enchaîner sur candidata.fr.
Bah, ça tombe bien parce que ça se rejoint. Je pense que la première demande, j'essaie de m'exprimer pour tout regard citoyen à ce niveau-là en termes de données pour l'année, est quelque chose qui nous tiendrait vraiment à cœur d'obtenir, et quelque chose que quasiment toutes les équipes qui ont participé aujourd'hui ont pointé comme quelque chose qui leur manquait pour bosser.
Alors je précise que l'acte de presse n'est pas encore terminé, c'est vrai. Les résultats c'est juste après.
Et donc c'est les votes. Ça paraît fou, mais en France on ne sait pas pourquoi un parlementaire vote. Ça paraît surréaliste.
Explique,
je pense.
Alors peut-être.
Et donc aujourd'hui, en France, alors le Sénat publie un détail des votes individuels de chacun des sénateurs, sauf que les sénateurs pratiquent le vote de groupe, et c'est-à-dire qu'un sénateur va porter l'ensemble des votes de tous les membres de son groupe, et ce qui fait qu'en fait on va avoir 20 sénateurs présents dans l'hémicycle qui vont voter pour tous les sénateurs. Sur le papier, on a l'impression que tout le monde était là et que tout le monde a voté. En pratique, on n'en sait rien. Et en plus, c'est anticonstitutionnel parce que normalement la Constitution précise qu'on peut pas porter la voix de plus d'un autre parlementaire. Donc ça, c'est le Sénat. Et l'Assemblée nationale, c'est encore plus rigolo. Il y a deux types de votes. Il y a un type de vote sur les scrutins, ce qu'on dit solennel, qui concerne tous les projets de loi sur le texte final, et pour lequel on a le détail des votes. Et il y a aussi un autre type de vote, c'est les scrutins publics. Et pour cela, on n'a que la liste des gens qui ont voté différemment de leur groupe. C'est-à-dire qu'on sait que dans le groupe UMP, il y en a 45 qui ont voté, dont trois qui ont voté différemment, qui sont un tel et un tel. Par contre, on ne sait pas qui a voté pour. Et alors, donc ça, c'est les types de vote en général. Et au-delà de ça, les parlementaires peuvent déléguer leur vote. C'est-à-dire qu'on peut voter pour un autre parlementaire. Et ça, on ne sait pas lequel a voté pour qui. Ce qui fait qu'on ne sait pas qui était présent dans l'hémicycle, on ne sait pas qui a voté quoi, et on ne sait pas qui voulait voter quoi. Donc il y a un vrai souci à ce niveau-là, en termes de transparence démocratique, savoir pourquoi vote chaque parlementaire. Et ça fait partie des données donc qui ont été demandées en grande partie par les utilisateurs et qui constituent candidata.fr. Donc pas de gros flonflon, gros lancement, quoi que
Alors,
ce soit.
Qu'est-ce que c'est candidata.fr? Parce que pour
l'idée de candidata.fr,
c'est
Silicon Sentier qui a eu l'idée, Silicon Sentier, Silicon Maniacs, avec OVNI et Regard Citoyen, qui a proposé l'idée quelques jours avant cette journée, en se disant qu'on pourrait essayer de lancer à la fin de cette journée un appel commun, et qu'on vous invite tous à rejoindre peut-être le signant, pour l'instant c'est pas permis, mais en gros pour l'instant c'est candidata.fr, c'est juste un texte avec un lien vers un endroit où vous pouvez recenser les données qui nous manquent pour traiter des élections. Parce qu'effectivement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plein de données politiques, mais pour arriver à faire les trucs les plus intéressants possibles dans le cadre des prochaines élections, il manque plein d'informations. Alors quel genre d'informations? Donc par exemple, donc les résultats détaillés des votes, mais par exemple les déclarations d'intérêt des parlementaires, le cumul de leurs indemnités, les notes de frais des élus, parce que celles-là, elles existent, les budgets des assemblées, les discours politiques en format XML, les programmes des candidats en format XML de la même façon, la cartographie des circonscriptions, les données relatives au travail parlementaire que nous on publie sur nos députés.fr et nos sénateurs.fr, mais qui ne sont pas disponibles autrement. Alors il y a eu un petit effort sur data.gouv.fr, il y a les questions écrites et les débats parlementaires qui sont proposés en données, mais je vais vous avouer que pour les avoir regardées, je crois que je passerai moins de temps à traiter les fichiers HTML qui sont sur le site de l'Assemblée nationale que ces données-là, parce que le format est absolument inutilisable. Donc, ça continue, les CV des élus, la présence en hémicycle, les agendas professionnels,
et bien évidemment,
les frais de campagne.
On retrouve toute cette liste sur candidata.fr.
Donc cette liste est sur candidata.fr et avec un lien qui vous permet d'aller compléter la liste parce que effectivement, il manque des choses et que invitons nos élus, la société civile et data.gouv.fr à publier toutes ces données qui seront indispensables pour tous les data journalistes.
Merci à tous d'être venus. Alors c'est pas terminé pour la journée Actes de presse parce qu'il reste donc la fin et la remise du Minitel au vainqueur qu'on ne connaît pas encore. Merci en tout cas à tous nos invités et au public nombreux. Merci en tout cas et on reste là, donc je vous dis à tout de suite. Ciao.